Bonjour. Alors aujourd'hui, je représente un peu l'équipe qualitative, mais j'ai vu que j'avais une de mes collègues de Toulouse qui est là, Amandine Albisson, donc je suis très contente parce que il n'y a plus à proprement parler d'équipe qualitative en poste pour le programme Un chez soi d'abord. Donc ce que je vais dire est le fruit d'un travail collectif sur le volet dit qualitatif du programme de recherche. Là, c'est bon. Il y a un module.
Voilà,
je ne pas la petite chose.
Voilà.
Okay. Je vais peut-être commencer par dire qu'en 2011, que ce soit pour la recherche ou l'intervention, on est arrivé dans un contexte un peu adversif. En tout cas, dans l'intervention, on entendait beaucoup, puisque on a participé à un certain nombre de réunions pour valoriser le lancement du programme au départ, au niveau local. On entendait beaucoup, on le faisait déjà avant. Et aujourd'hui, en tout cas en 2016, je n'ai pas refait de terrain, mais on entend de plus en plus comment fait-on pour le faire chez nous. Donc il y a quand même un petit changement de perception et d'accueil de ce type de programme. Alors pour vous résumer rapidement, le volet qualitatif, il avait trois axes de recherche. D'abord, on s'intéressait aux dynamiques institutionnelles et politiques. En gros, ça veut dire comment l'expérimentation s'est greffée dans un territoire au milieu d'un certain nombre de services. La deuxième question, c'était de comprendre le processus de rétablissement alors des personnes qui étaient accompagnées et logées par le programme, mais également de faire des entretiens avec des personnes dans le groupe témoin, c'est-à-dire suivies dans l'offre habituelle. On verra d'ailleurs que c'est assez congruent avec les résultats quantitatifs, puisque les gens se rétablissent aussi dans l'offre habituelle, ce qui est plutôt rassurant. Et puis de regarder comment les pratiques professionnelles s'étaient structurées au fur et à mesure que les équipes ont été recrutées et se sont formées et ont créé leur propre expérience ainsi qu'une culture commune d'intervention. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque axe de recherche. Je pense qu'ici, ce qui peut vous intéresser, c'est de... Je vais rappeler très brièvement le modèle testé pour qu'on passe ensuite aux enjeux de l'expérimentation et de la pérennisation du programme. Alors, on va dire qu'il y a deux pieds au programme dans le modèle testé. Un pied américain qui nous vient d'un grec, d'ailleurs, qui est le modèle du Pathways to Housing. Donc, c'est le Housing First qui a été développé aux États-Unis au milieu des années 90. Je ne reviens pas sur le détail, je pense que c'est des choses que vous connaissez. On a également été très proche du modèle canadien, non seulement sur le principe des équipes d'intervention, sur le modèle des Assertive Community Treatment, mais également en termes de recherche, puisque, Pascal Hockey l'a dit tout à l'heure, on a calqué aussi un certain nombre d'éléments du protocole de recherche à proprement parler. Donc il y a quelques différences, mais globalement, c'est très ressemblant. On verra ça tout à l'heure. Eric Latimer va nous parler mieux de la comparaison qu'on peut faire aujourd'hui sur le modèle, mais aussi sur ce qui s'est passé après l'expérimentation au Canada et en particulier au Québec. Est-ce que ça marche? Ça ne marche plus? Tu as repris la main?
Non, j'ai...
Ça ne marche pas.
Pas.
Ah si, c'est, il ne faut pas que tu interviennes en fait.
Donc ça,
on en parlera avec Eric tout à l'heure. La population ciblée par le programme canadien était très proche, à ceci près qu'ils avaient aussi le diagnostic de dépression sévère qui était inclus. Globalement, le design global était proche. Les années de démarrage du programme aussi, on était quand même à 3 ans. Les Canadiens ont commencé avant nous et ça nous a beaucoup servi. Et puis, on a maintenu des échanges, encore maintenant d'ailleurs, pour essayer d'analyser les résultats de manière comparative. Et on peut dire que dans les deux cas, il y a eu des résultats probants et un impact sur les politiques publiques. On verra avec Eric tout à l'heure, la Timmer, que à Montréal, ça a été un peu particulier et qu'on est plus sur une dissémination du modèle que sur une réplication, puisque le programme s'est arrêté un peu brutalement, même carrément brutalement, en mars 2013. Donc, il vous racontera tout à l'heure. Fondamentalement, on peut noter que la différence entre la France et le Canada, c'est que au Canada, il y a une culture plus ancienne et commune à un certain nombre d'associations d'usagers, de chercheurs et de professionnels autour du rétablissement, ce qui fait qu'on a effectivement des études quantitatives, qualitatives, et puis une littérature, des formations. Enfin, c'est plus courant, en tout cas, sur le rétablissement. L'autre différence avec le programme français, c'est que le programme canadien était un programme piloté depuis l'État fédéral et, entre guillemets, imposé, venant d'en haut aux cinq villes, en tout cas dans les cinq provinces, enfin, dans les cinq villes qui ont expérimenté le chez-soi. Et du coup, ça a aussi déterminé la façon dont ça a été repris ou non, ou adapté après l'expérimentation, puisque, en particulier au Québec, c'était perçu comme une imposition du niveau fédéral, alors que la compétence santé et sociale est une compétence des États fédérés et non pas de l'État fédéral. En France, on a une situation un peu différente, puisque c'est, on va dire, le programme est parti du bas, à Marseille, à partir d'une expérience très minoritaire, militante, elle est remontée, elle est passée, je vous passe le détail, par les administrations, les ministères et les administrations centrales. Et ensuite, elle est devenue très, très appuyée fortement par l'État central à partir de la cause des personnes sans chez soi. Voilà. Et en termes de culturel, on n'a pas vraiment de mouvement d'usagers sur le thème du rétablissement qui était fort, qui est fort historiquement en France. Donc ça impacte aussi les suites du programme. Donc les enjeux de l'expérimentation, je vais vous parler de deux types d'enjeux, les enjeux pour les professionnels et les enjeux politiques. Mais avant cela, je pense que je peux quand même donner quelques résultats très généraux sur les trajectoires de rétablissement qu'on a essayé de documenter avec la recherche qualitative. Au cours des entretiens qu'on a fait régulièrement avec un petit groupe de personnes, on a pu se rendre compte que ce dont témoignaient les personnes concernées était d'abord l'expression de revendications contre une stigmatisation qui venait d'institutions diverses, que le fait d'entrer dans le programme du côté du groupe expérimental permettait une certaine prise de risque, mais qui était sécurisé par un filet de protection que constituait le logement et l'accompagnement, et que pour beaucoup, en tout cas c'est comme ça que c'est raconté par les personnes, l'intégration dans le programme a créé une forme de bifurcation dans le parcours personnel. Il y a eu un avant et un après pour beaucoup, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont décrit. Alors, autre élément important, le processus de rétablissement tel qu'on a essayé de le documenter dans la recherche qualitative, c'est vraiment une modification de la perception des contraintes et pas forcément des contraintes, le changement des contraintes elles-mêmes. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a des personnes qui sont retournées un temps dans la rue ou dans des foyers et pour autant, la perception de leur situation objective avait changé. Concrètement, ça veut juste dire que les gens avaient gardé une forme d'espoir, même si il y a des moments, ils étaient de nouveau en galère, je dirais. Donc c'est vraiment une question de subjectivité. Et du coup, on pourrait dire que d'après la recherche qualitative, voilà, le processus de rétablissement, c'est vraiment l'évolution d'un rapport entre une subjectivité et des conditions objectives d'existence. C'est ça qui évolue. Donc, ce qui peut faire évoluer ce rapport, c'est soit sa propre subjectivité, soit l'évolution aussi des conditions d'existence au niveau objectif. C'est un rapport qui évolue. Autre élément, pour beaucoup, ça a été une façon de, on l'a vu d'ailleurs dans le film un petit peu, de retrouver l'estime de soi et de retrouver des identités non réduites à des identités assez stigmatisantes, soit de malade, handicapé, fou, drogué, etc. Ça a permis de se définir autrement. Et ça peut être extrêmement différent d'une personne à l'autre et de redevenir donc locataire évidemment, mais également parent, travailleur, joueur de flûte, enfin peu importe, d'avoir d'épousé des rôles sociaux différents, de retrouver des rôles différents et de ne plus avoir une seule ligne identitaire et stigmatisante. Ensuite, on a vu aussi que dans le programme, il y a un certain nombre de personnes qui ont, comment on pourrait dire. Se sont mis à assumer une espèce de double rapport à la norme. Pour certains aspects de leur vie, pouvoir dire qu'ils ont le droit d'être comme tout le monde et donc d'être un citoyen comme les autres. Et pour d'autres aspects, dire j'ai le droit de ne pas être comme tout le monde et du coup, il faut adapter un certain nombre de choses à la société, à s'adapter. Je prends un exemple sur